Vous écoutez, on lit pour vous.
Et si on essayait ce qui a fait ses preuves? Un texte de Normand Baillargeon, paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir. Le cours de maths va commencer. Au programme, cette fois, le fameux et génial théorème de Pythagore. L'enseignante est compétente, passionnée et fin prête. Elle a imaginé des tas de trucs pour faire comprendre le théorème, pour en montrer la beauté et l'utilité. Mais, cette fois encore, ça ne se présente pas très bien. Polo et Mathias se sont chicanés dans le corridor et ça se poursuit en classe. Il a fallu qu'elle intervienne. José a encore son cellulaire caché sur ses genoux et joue à on ne sait trop quoi. L'habituel malpoli vient de lancer une insulte à la jeune fille à côté de lui, qui lui répond. Une autre dit du mal de son enseignant de français avec plein de gros mots en prime. Sans rien dire des quelques élèves qui, quoi qu'elles fassent, ne s'intéressent pas beaucoup aux mathématiques. Et Christophe qui arrive encore une fois en retard. Bien entendu, pour comprendre et apprécier le théorème de Pythagore, il faut se concentrer, être attentif, oublier un moment le monde ambiant et pénétrer dans celui où le célèbre grec nous convie. Ici, les conditions ne sont décidément pas réunies. En prime, l'actualité rapporte un autre facteur rendant difficile d'enseigner. Voici en effet un stagiaire qui s'est fait férocement insulter et qui a été menacé par des élèves, parce qu'il est homosexuel. Et on cite justement de nombreux cas de violence ou d'intimidation envers les enseignants, parfois par les parents. Une vieille histoire. Indiscipline et irrespect ne sont pas des nouveautés en éducation. Écoutez Platon qui, dans La République, livre 8, s'inquiète du moment où le père s'accoutume à traiter son fils comme son égal et à redouter ses enfants, que le fils s'égale à son père et n'a ni respect ni crainte pour ses parents, où le maître craint ses disciples et les flatte, et où les disciples font peu de cas des maîtres et des pédagogues. À ces difficultés d'enseigner s'ajoutent aujourd'hui toutes ces occasions de ne plus se concentrer auxquelles nous soumettent les médias sociaux et dont les effets néfastes sont désormais bien documentés. Face à tout cela, une solution est périodiquement proposée, le retour de la discipline. Elle est reprise cette fois par les jeunes de la Coalition Avenir Québec, CAQ, et le premier ministre a promis d'agir et de demander au ministre de l'Éducation qu'on mette sur pied un « plan sur la discipline à l'école ». Si tout le monde s'entend sur l'importance de la discipline à l'école et sur ce qui justifie qu'on l'implante, ce qu'elle signifie concrètement fait débat. Personne, heureusement, ne souhaite le retour des châtiments corporels, des gifles ou des bonnets d'âne. Mais qu'entend-on par discipline et comment exerce-t-on celle-ci? Faut-il imposer le vouvoiement, comme certains le demandent, qui est de toute façon, selon moi, couramment pratiqué? Faut-il imposer l'uniforme? Comment punir les coupables? Faut-il leur imposer des formations? Si oui, lesquelles? Le problème soulevé est grave. Les enjeux sont importants. Je suggère que, pour y voir plus clair, on regarde ce que nous enseigne la recherche crédible, car elle a des choses importantes à dire là-dessus. Une idée à considérer. La méthode s'appelle, en français, « soutien au comportement positif », SCP. En anglais, « Positive Behavioral Interventions and Support, PBIS. Elle est à présent implantée dans de très nombreuses écoles, notamment aux États-Unis, mais aussi aux Pays-Bas, en Finlande, en Norvège, au Danemark, en France. J'en oublie sans doute, et ça a même commencé chez nous. Je ne peux entrer dans les détails ici, mais disons que le SCP mise sur un travail concerté impliquant de manière cohérente tous les acteurs de l'établissement qui se centrent sur les comportements attendus plutôt que sur ceux qu'on devrait punir. Sa mise en place est rigoureusement encadrée. On en a testé les effets et les résultats sont prometteurs. Voilà. Je pense de quoi inspirer le ministre pour répondre à la demande qui lui est faite. J'ajoute que d'autres interventions fondées sur des données probantes sont possibles, comme l'enseignement d'habiletés sociales et des compétences socio-émotionnelles. Bien entendu, cela ne règle pas tout. L'école comme institution doit être protégée du monde extérieur quand celui-ci veut y entrer, y être indiscipliné et ne pas respecter ses valeurs. Par exemple, ce parent qui insulte et même menace l'enseignant homosexuel. Cette indiscipline-là, le SCP ou les autres approches ne la régleront pas. C'est à la société tout entière que cette tâche revient. En affirmant ses valeurs et en protégeant l'école contre ce qui la menace. Au travail. C'était « Et si on essayait ce qui a fait ses preuves », un texte de Normand Baillargeon paru le 14 septembre 2024 dans Le Devoir.
Au resto, après un verre de vin, au festival, entre deux bières. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 7 septembre 2024 dans La Presse. Les ventes de produits sans alcool sont en hausse de 24 % depuis un an au pays, portées par la multiplication de l'offre des prêts à boire qui sont extrêmement populaires. On sait que l'on boit plus de boissons qui ont très peu d'alcool ou pas du tout. On apprend maintenant quelques détails sur ceux et celles qui en achètent, notamment pourquoi ils le font et où, les enseignes au rabais étant une destination de choix, et même les festivals de bière qui mettent désormais les options sans alcool bien en évidence. Le tour de la question en 5 points clés. Question d'alterné. Plus de 3 consommateurs sur 4 qui choisissent une boisson sans alcool vont aussi acheter de la bière, du vin ou des spiritueux, selon une étude de la firme de recherche Nielsen qui s'est intéressée à ce réseau. On note que cette alternance entre les deux catégories se fait autant pour les achats dans les détaillants qu'au bar ou au restaurant. On remarque d'ailleurs que lors d'une sortie, la moitié des clients qui commandent une boisson sans alcool auront aussi pris de l'alcool dans leur soirée. Question de plaisir. Ce sont surtout des raisons de santé qui sont évoquées pour ce choix, et plus particulièrement par les jeunes qui veulent adopter un mode de vie plus sain, en réduisant leur consommation d'alcool sans passer au verre d'eau. Les gens veulent diminuer leur consommation d'alcool, mais veulent toujours avoir le plaisir de prendre une bière, explique Justin Archambault, qui a fondé l'Oktoberfest de Repentigny il y a 17 ans. À cette époque, dit-il, on suspectait automatiquement quelqu'un qui buvait une bière sans alcool, d'avoir perdu son permis de conduire, ou d'être enceinte, si c'était une femme. Le festival se tient tout le week-end à Repentigny et a comme bière officielle une bière sans alcool. On a voulu montrer l'exemple avec une bonne bière goûteuse sans alcool, nous dit Justin Archambault. La bière est brassée par l'alchimiste de Joliette. Selon Justin Archambault, la boisson sans alcool permet à celui qui la consomme de faire pleinement partie d'un groupe, au resto ou dans une sortie comme au festival, où un chauffeur désigné pourra lui aussi passer du bon temps, sans se sentir exclu. On est le premier festival à proposer une bière officielle sans alcool. On est très fiers de ça, dit le fondateur de l'Oktoberfest, qui rappelle que les Jeux olympiques de Paris ont fait la même chose plus tôt cet été en présentant leur bière officielle « Zéro alcool ». Question de prix. N'en déplaise aux monopoles provinciaux de vente d'alcool, les Canadiens achètent leurs boissons sans alcool à l'épicerie. Tandis qu'on note une augmentation plus grande des ventes dans les enseignes au rabais, que les consommateurs fréquentent davantage puisqu'ils sont à la recherche des plus bas prix lorsqu'ils font leurs courses. À l'inverse, un amateur de bière de microbrasserie va débourser plus cher pour un produit équivalent en goût sans alcool. Les gens ne cherche pas une option moins chère parce que c'est un produit sans alcool, confirme Francis Parisien, vice-président principal vente PME Canada pour Nielsen. Selon lui, les maîtres brasseurs ont joué un rôle important dans ce changement de mentalité en proposant, il y a quelques années, des bières sans alcool de grande qualité. Quant au point de vente, Francis Parisien croit que les monopoles augmenteront rapidement leur place dans ce marché dans les prochaines années. Les monopoles se sont réveillés sur cette tendance, dit-il. Question pratique. On ne sera pas surpris de voir les prêts à boire être la locomotive de cette croissance, puisque l'offre a explosé. 168% d'augmentation dans la dernière année pour ces produits en canette louangés pour leur aspect pratique. Globalement, les ventes de boissons sans alcool ont augmenté de 24% au pays. Cela suivait une hausse de 17% l'année précédente. Le segment a atteint 199 millions de dollars au Canada cette année. Les fabricants ont beau multiplier leurs innovations, la bière sans alcool demeure la plus populaire avec 76% du marché contre 16% pour le vin, l'offre étant moins large dans cette catégorie. Question de fêté. Si on pensait jadis que ces boissons étaient une solution de rechange punitive pour ceux et celles qui ne pouvaient pas consommer de l'alcool, ça n'est assurément plus le cas, puisque leur vente augmente durant les congés et les fêtes. Les fabricants ont bien saisi cet esprit festif et adaptent leur offre avec des offres saisonnières. Les analystes de Nielsen ont remarqué que si la consommation de boissons sans alcool n'est pas un phénomène urbain, 5 grandes villes canadiennes comptent tout de même pour plus du tiers de toutes les ventes en valeur de ces produits. À Montréal, c'est maintenant un marché de 25 millions de dollars, avec une croissance de 11 % calculée durant la dernière année. À Québec, on parle de ventes de presque 9 millions pour une croissance d'un peu plus de 9 %. C'était Au resto après un verre de vin, au festival entre deux bières. Un texte de Stéphanie Bérubé, paru le 7 septembre 2024 dans La Presse.
La petite robe rouge, un miroir, une fenêtre et une porte. Un texte de Jacinthe Laforêt, paru le 11 juin 2024 dans La Voix acadienne de l'Île-du-Prince-Édouard. Annoncé depuis quelque temps déjà, le lancement de l'album « La petite robe rouge » de Julie Gagnon et de Julie Pellissier-Loche a eu lieu comme prévu dans le cadre du Salon du livre de l'Île-du-Prince-Édouard le vendredi 31 mai. Le livre a été accueilli avec beaucoup de respect et de reconnaissance pour l'important message qu'il contient. Nous sommes ravis que le lancement se fasse dans le cadre de notre Salon du livre, a insisté Diane Ouellette, présidente du comité organisateur de l'édition 2024. Depuis les débuts au Salon du livre, nous avons tenté d'intégrer le concept développé par Rudine Sims-Bishop, qui dit qu'il existe trois grandes sortes de livres. Les livres miroirs, ceux dans lesquels on se voit et qui nous aident à mieux nous comprendre. Les livres fenêtres, qui nous permettent de mieux comprendre les autres. Et finalement, les livres qui sont comme des portes coulissantes, qui nous permettent de mieux comprendre le monde que nous partageons avec les autres pour agir de manière à le rendre meilleur. Je pense que Julie et Julie ont réussi un tour de force, en cela qu'elles nous offrent à la fois un livre dans lequel on peut se voir, dans lequel on peut voir et comprendre les autres, et qui nous permet d'entrer un peu dans une réalité qui pourra nous inciter à prendre de meilleures décisions, a décrit Diane Ouellette. L'autre principale autrice et idéatrice, Julie Gagnon, est une enseignante et pédagogue qui effectue depuis plusieurs années un cheminement personnel vers la réconciliation. D'abord dans sa propre classe, elle a lentement mais sûrement gagné les autres classes, puis l'école Saint-Augustin, tout entière, ainsi que le centre acadien Grand Rustico. Julie Pélissier-Loche est, elle aussi, une conteuse, une pédagogue, et, chacune à sa façon, elle donne un exemple de ce à quoi un monde meilleur pourrait ressembler. « Je suis leur parcours depuis longtemps », affirme la lieutenante-gouverneure de l'île du Prince-Édouard, son honneur Antoinette Perry, souvent invitée à des événements visant à célébrer les projets de l'une comme de l'autre. Elle nous donne un exemple à suivre dans notre propre province. Elle nous montre comment faire pour apprendre la culture des autres, a-t-elle ajouté. Marie Cadieux, directrice générale et littéraire de la maison d'édition Bouton d'or Acadie, a, quant à elle, félicité l'île du Prince-Édouard d'avoir offert ce bijou de livre sur un sujet dont on ne parle pas, parce qu'on ne sait pas. Il faut que ce soit amené de façon tendre et responsable, dans un langage que tous peuvent comprendre, dit-elle, convaincue que ce livre qui vient à peine d'être lancé est promis à un voyage extraordinaire partout au Canada. D'ailleurs, la sénatrice Michèle Audet, celle-là même qui a présidé la commission d'enquête sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues, a assuré dans son message que chaque sénateur et sénatrice sera au courant de ce livre. Dans le cadre de la commission d'enquête, j'ai reçu des enseignements et des vérités que je porte en moi depuis comme une responsabilité, a-t-elle dit dans son message vidéo. Elle a laissé entendre que de voir des projets comme La Petite Robe Rouge voir le jour lui donne l'impression que d'autres assume une partie du poids de la responsabilité de mettre fin à l'ignorance. La ministre de l'Éducation et de la Petite Enfance, Nathalie Jameson, a, elle aussi, félicité Julie Gagnon et Julie Pélissier-Loche pour leur travail et pour avoir donné aux jeunes personnes et à leurs parents un livre aussi pertinent. Ce livre, écrit en trois langues, permettra à plus de monde d'en tirer des leçons pour le message essentiel qu'il enferme, a-t-elle dit. Après ces quelques discours, les deux autrices, accompagnées de Michael Julian, ont lu un extrait en français, en anglais, ainsi qu'en Micmac. C'était La Petite Robe Rouge, un miroir, une fenêtre et une porte. Un texte de Jacinthe Laforêt, paru le 11 juin 2024 dans La Voix acadienne de l'île du Prince-Édouard.
Les fractures de l'exil, une chronique d'Elsa Pépin. Paru le 11 juin 2024 dans Les Libraires. Que connaît-on du déracinement, de ces milliers de gens déplacés à cause des guerres, des conflits, des rêves d'un meilleur avenir? Hicham Bhattar et Emily Boum nous conduisent dans le sillage de deux Africains qui immigrent en Europe, des histoires complexes de déracinement, où l'on découvre que la plus grande fracture de l'exil se trouve à l'intérieur de soi. Khaled a fui la Libye pour étudier à Édimbourg. En ces temps-là, les années 1980, l'État libyen envoyait les étudiants boursiers à l'étranger par petits groupes auxquels se mêlaient un ou deux mouchards qui avaient pour tâche d'espionner les autres. Khaled mesure chacun de ses gestes, chacune de ses paroles, sachant qu'on le surveille. Lorsque son ami Mustapha l'invite à manifester devant l'ambassade libyenne à Londres, il porte la cagoule pour se faire discret, mais l'événement tourne mal. 11 blessés tombent sous les balles des mitraillettes de 3 agents du colonel Kadhafi et une jeune policière, Yvonne Fletcher, meurt sous les projectiles. S'inspirant d'un événement réel qui a eu lieu le 17 avril 1984, Matar imagine le sort de Khaled, gravement blessé par une balle reçue en pleine poitrine, pour qui la vie bascule ce jour-là. Pour éviter d'être identifié, Khaled ne révèle rien à sa famille. « Fais-toi plus petit, réduis ton échelle, absente-toi, sois aussi invisible qu'un fantôme. » C'est ainsi que le jeune de 18 ans construira désormais sa nouvelle existence à Londres, dans un jeu de masques et de dissimulation qui fait de son expatriation un exil intérieur. Remarquablement traduit par David Fauquemberg, « Mes amis » de Hicham Matar, écrivain anglo-libyen d'origine américaine, lauréat du Pulitzer 2017 pour « La terre qui les sépare », se déploie en une fresque intime sur le déracinement d'une grande puissance. Du récit dur et touchant de la fusillade décrite à travers le regard incrédule du jeune garçon, sans pathos ni un mot de trop, jusqu'à celui de sa lente reconstruction depuis un isolement et une solitude complets, puis à un lent rapprochement avec quelques individus, la narration épouse les états d'âme du narrateur avec une sobriété n'excluant pas de vibrantes émotions. Au fil de réminiscences qui ne sont pas sans rappeler celles d'À la recherche du temps perdu, le roman joue avec les temporalités pour créer une hypnotique déambulation intime dans le mal-être de l'exilé. L'épaisseur du temps, les silences et les secrets enrobent ce voyage intérieur d'une atmosphère étrange et fascinante. Matar nous plonge dans le vertige de l'expatrié, en se collant au désarroi et à la torpeur de ce garçon totalement déraciné, dont la vie personnelle est déterminée par le politique. On pense à l'Ukraine, à Gaza, à tous ces déplacements forcés, aux enfants arrachés à l'enfance. L'histoire de Khaled trouve trop d'échos dans l'actualité pour ne pas troubler. Le roman se déploie sur une longue période, jusqu'au printemps arabe de 2011, qui bouleverse le destin des 3 amis, dont 2 choisissent de rejoindre la révolution en Libye. Khaled reste à Londres, incapable de se mobiliser pour ce pays qu'il a quitté des décennies plus tôt. Quelque chose se brise lorsqu'on reste parti trop longtemps. Les liens, les manières d'être et les jours eux-mêmes se brisent en deux, et tout le reste aussi que je ne saurais décrire, déclare-t-il, faisant le compte de tout ce qui a été effacé pour faire place aux autres choses qui naissent. Sauvé par l'amour et l'amitié, Khaled aura d'abord clamé son indépendance comme mode de survie, pour ensuite la voir comme une malédiction. C'est la dépendance qu'un esprit saint doit chercher. Dépendre des autres, et qu'ils puissent dépendre de vous. Hommage à l'amitié, roman mélancolique sur les trajectoires de vie et les ruptures profondes qui composent la réalité des exilés, Mes amis est aussi un portrait extraordinaire de Londres, une ville où il est possible de disparaître jusqu'à se perdre soi-même et devoir se reconquérir. Contrer la disparition. Zach aussi cherchera à disparaître et à se réinventer en arrivant à Paris, après avoir fui le Cameroun, où il a été élevé par une maman bordel qui se prostituait pour le faire vivre. Il veut tout oublier et se rebâtir en s'effaçant. Mais son passé le rattrape. Dans un récit où elle entrelace les récits de trois générations et aborde le choc des cultures avec perspicacité et subtilité, Emily Boom offre, avec Le rêve du pêcheur, un captivant roman sur la transmission, l'exil et les complexes treillages du déracinement. On y suit Zacharias, arraché à sa culture ancestrale durant les années 1970, comme tous les habitants de Kampo, un village camerounais qui sera modernisé au détriment de son identité, et celui de son petit-fils, Zach, immigré en France. J'essayais de devenir quelqu'un d'autre, mais je ne savais pas qui, ni comment faire, constate Zach, alors qu'il essaie de se conformer et d'embrasser les codes de Paris, d'abord émerveillé, puis désillusionné par la société française. Il coupe les ponts avec sa mère et ses amis en quittant le Cameroun, mais il aura beau refaire sa vie, devenir psychologue, se marier et fonder une famille, l'homme porte une histoire qui ne peut pas se taire. En mêlant habilement les histoires, Boom se questionne sur les liens souterrains de la filiation et de notre identité géographique. Le roman, brillamment écrit, à la fois politique et poétique, évoque les traumatismes du déracinement et comment, peu à peu, l'exilé doit se réapproprier son existence, son identité, ses racines. Truffé de multiples péripéties, Le rêve du pêcheur épouse les vagues houleuses de la vie des déracinés, dénonce le colonialisme et le racisme sans être didactique, mais célèbre aussi, derrière la dure réalité qu'il met en scène, la force des liens familiaux et l'appartenance aux lieux qui nous mettent au monde. Avec ferveur, douceur, un humour féroce et une langue vivante qui intègre le pidgin camerounais, la romancière célèbre aussi les femmes qui donnent la force à tant d'hommes fugitifs, désorientés. Un heureux et savant mélange de propos engagés et de voyages intérieurs captivants. C'était « Les fractures de l'exil », une chronique d'Elsa Pépin, parue le 11 juin 2024 dans Les libraires.